les préservatifs de la pensée ou comment la philosophie nous préserve de nos préjugés. Une chronique philosophique présentée par Christophe Galli. Chaque mois, les préservatifs de la pensée sont des chroniques philosophiques qui vous proposent de remettre en question une idée, une certitude pour mieux l'analyser. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à un concept au premier abord optimiste et solaire, même si il va nous révéler quelques surprises. Le progrès. Avec un architecte philosophe décédé en 2018, Paul Virilio, nous allons voir jusqu'à quel point le progrès est lié à l'accident potentiel. Mais avant de s'intéresser à notre époque, remontons à nos racines grecques. La tragédie grecque était le récit d'hommes qui ne maîtrisaient pas leur destin, à cause de leur faiblesse congénitale d'une part, et de l'action des dieux d'autre part. Les héros devaient donc se battre contre eux-mêmes, leur peur, leur lâcheté, les trahisons des leurs, mais aussi contre les caprices de divinités qui s'amusaient de la fragilité humaine. Les dieux ont disparu de notre horizon et de nos récits, mais nos drames, non. Nous sommes face à l'inattendu, à ce qui brise notre vie, à des murs qui nous écrasent. Ces drames, ce sont les accidents. Accidents de la route, crises financières liées à la vitesse de la spéculation, des canicules et des inondations liées à la puissance des outils humains qui produisent du CO2, catastrophes nucléaires liées à... etc. etc.
Si le battement d'aile d'un papillon quelque part au Cambodge déclenche sur un autre continent le plus violent des orages, le choix de quelques-uns dans un bureau occidental bouleverse des millions de destins, surtout si le bureau est ovale. Il n'y a que l'ours blanc qui s'étonne que sa banquise fonde. Ça ne surprend plus personne de notre côté du monde. Quand le financier s'enrhume, ce sont les ouvriers qui toussent. C'est très loin la couche d'ozone, mais c'est d'ici qu'on la perce. C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence.
Nous nous apercevons que le concept d'accident a remplacé celui de destin dans la tragédie humaine. Paul Virilio, architecte urbaniste né en 1932 et mort en 2018 donc, s'intéressa tout au long de sa vie à cette dimension oubliée de la réalité et à son corollaire, la vitesse. Il élabora le concept de dromosphère. Comment la vitesse engendrée par l'augmentation considérable de notre puissance au XXe siècle a produit des drames inimaginables auparavant. Pourquoi ce nom bizarre, dromosphère ? Le dromos, en grec, cela veut dire « chemin ». C'était souvent un chemin bordé de sphinx entre un temple et un quai en bord de mer. La dromosphère symbolise ainsi une piste de course à pied. C'est la représentation du culte de la vitesse, doublée par le sentiment que notre destin est borné par un regard omniprésent qui nous échappe, celui des sphinx. Ce qui caractérise l'époque contemporaine, c'est le fait que nous soyons embarqués dans ce dromos, sans pouvoir en sortir, avec l'angoisse de nous écraser directement contre le mur. Vous voulez un exemple ? Lisez la supplication de Svetlana Alexievitch, qui 10 ans après l'accident de Tchernobyl, raconte l'enchaînement des drames humains en recueillant les témoignages. Si vous avez l'estomac bien accroché, allez jusqu'au bout du récit de cette jeune mère de famille dont le mari fit partie des premières équipes le matin de l'explosion.
Il n'y avait vraiment rien de normal à Tchernobyl. Ce qui s'y est passé, ce qui s'est passé après, et même nos actes héroïques, tout cela était insensé. Le vent transporte toute cette fumée, toutes ces radiations. Vous avez affaire à quelque chose qui n'est jamais arrivé sur cette planète. Je vous ai dit ce que je savais. Je sais que vous essaierez de faire de votre mieux. Ils nieront tout, bien entendu. Comme d'habitude.
Tchernobyl.
Bien entendu, lorsqu'on entend une telle phrase, on se dit immédiatement que Paul Virilio est un de ces anti-modernes réactionnaires technophobes. Un héritier de Jean-Jacques Rousseau qui, dès le XVIIIe siècle, dans son discours sur les sciences et les arts en 1750 et le discours sur l'origine et le fondement de l'inégalité parmi les hommes en 1754, remettait en doute les bienfaits systématiques du progrès technique et de son lien avec le progrès moral. Jean-Jacques Rousseau, qui était accusé par Voltaire de vouloir revenir au temps où l'on marchait à quatre pattes, mais dont il faut lire la réponse à son illustre contemporain. Quel plus sûr moyen de courir d'erreur en erreur que la fureur de savoir tout, écrivait-il. Ce qui ne veut rien dire d'autre que la simple vénération du progrès sans s'interroger sur sa dangerosité, c'est courir tout droit à notre perte. Ça ne veut pas dire que l'on renie le progrès, mais qu'il faut toujours s'interroger sur ses conditions d'existence. Let me take you down. C'est ce que propose de faire Paul Virilio. C'est penser l'existence des accidents résultant des innovations technologiques apparues depuis la multiplication de la puissance et de la vitesse il y a 150 ans. Je le cite. Loin de prôner un catastrophisme millénariste, il ne s'agit pas de prendre l'accident au tragique dans le but d'effrayer les foules, comme le font si souvent les masses médias, mais seulement de prendre enfin l'accident au sérieux.
Notre monde est à la fois catastrophique, apocalyptique et merveilleux. Il est les deux à la fois. Tout va plus vite, tout est plus enrichissant et tout est plus dramatique. Inventer l'avion, c'est inventer le crash. Inventer le navire, c'est inventer le naufrage. On ne peut pas censurer l'accident. Eh bien, notre technologie, si nous ne luttons pas, si nous nous couchons devant, nous ne serons plus des hommes. La technique, elle est là pour se battre avec. Elle ne progresse que par nos luttes, que par la dénonciation de ce qu'elle a de négatif. Nous avons une potentialité à travers l'interactivité de créer un phénomène de disjonction, de fusion en même temps et de désintégration inouïe. Si on prend au sérieux, comme je prends au sérieux, non seulement Internet mais les télécommunications, il y a là une possibilité de crack social qui serait l'équivalent du crack financier.
Mais qu'est-ce qu'un accident ? Il faut remonter à Aristote pour le comprendre. Le philosophe grec distinguait l'essence d'une réalité de l'accident. L'essence, c'est ce qui est en lien avec la nature de la chose de manière nécessaire. Le train est, par essence, plus rapide que la marche à pied. L'accident, lui, n'est jamais nécessaire, mais révèle néanmoins ce qui est de la nature même de la chose. Un accident, lorsqu'il surgit, exprime les potentialités de la chose ou de l'être. Le coup de pioche peut révéler par accident l'existence d'un trésor qu'on ne cherchait pas. Fleming découvrit, par accident, les propriétés du pénicillium. Le même mot est utilisé pour désigner les accidents liés aux nouvelles innovations. Quel est le lien ? Paul Virilio s'explique. Inventer le navire à voile, c'est inventer le naufrage. Inventer le train, c'est inventer l'accident ferroviaire du déraillement. Inventer l'automobile domestique, c'est produire le télescopage en chaîne sur l'autoroute. C'est une réalité. Le penseur ne doit pas juste se lamenter en proposant d'abandonner tous ses progrès, hein, ce serait une absurdité. En revanche, il peut s'en servir comme levier pour réfléchir sur sa propre existence. Comme le faisait remarquer Paul Valéry, notre grand penseur sétois du siècle dernier, l'instrument tend à disparaître de la conscience. On dit couramment que son fonctionnement est devenu automatique. Ce qu'il faut en tirer, c'est la nouvelle équation. La conscience ne subsiste que pour les accidents. L'accident sert ainsi à réveiller nos consciences et à percevoir ce que porte en elle l'innovation. L'accident, qui est une rupture dans le déroulement automatique et quotidien des faits, permet à l'homme de prendre le recul nécessaire sur la véritable portée de ces innovations technologiques. La conclusion de Paul Virilio, à l'occasion de cette prise de conscience, est que la modernité se distingue des âges anciens dans le sens où elle porte en elle la part croissante de la vitesse dans nos drames. Plus nous allons vite et moins nous maîtrisons notre destin. Là encore, il faut préciser les termes. Aristote écrivait que le temps est l'accident des accidents. C'est-à-dire que ce qui caractérise l'existence des êtres vivants par rapport à une potentielle divinité, c'est que nous n'existons pas de toute éternité. Au contraire, nous vivons dans une dimension à part de l'espace qui se caractérise par la succession d'événements, parfois imprévisibles. C'est ce que nous appelons le temps, c'est-à-dire ce qui nous permet de compter selon l'antérieur et le postérieur. Le temps est irréversible, nous ne pouvons pas faire marche arrière. Et il y a des cycles, des saisons. Mais ce qui rassure, c'est le rythme régulier du temps. Le temps passe selon une succession mathématique fixe. Même si psychologiquement, nous ne l'abordons pas toujours de la même manière. 10 minutes dans une salle d'attente de dentiste sont parfois bien plus longues que 15 jours à la plage.
Moi, j'adore aller chez mon dentiste parce qu'il a des vrais magazines de filles. Elle, glamour, psychologie. Des fois, j'arrive une heure plus tôt, pas pour attendre, hein, pour avoir le temps de tout lire. Avant, j'avais un dentiste qui était mieux, mais il avait que des magazines de merde. Auto Plus, La Revue Médicale, Point de Vue, Pomme d'Api. Tu rentrais, t'étais déjà anesthésié. Et celui d'avant, c'était pire, il avait des magazines qui dataient de Mathusalem. À chaque fois que j'y allais, j'apprenais la mort de Lady Di. Une fois déjà, c'est pas facile, mais toutes les semaines, elle a dû souffrir. Hein.
Mais face à cette régularité, l'addition de ces événements avec la présence du hasard favorise le surgissement des accidents. Aristote, au plus profond du monde antique, avait donc une perception aiguë du tragique de l'existence humaine. Un homme pouvait être tué à la suite d'une chute de cheval. Une guerre pouvait se perdre car la flotte navale coulait lors d'une tempête. Mais les temps modernes, en plus de la vitesse qui a augmenté de manière exponentielle, ont une autre dimension qu'il faut penser, comme le souligne Paul Virilio. Il y a désormais la synchronisation médiatique. Mais avant d'arriver à ce dernier point, revenons d'abord à la vitesse, accélération considérable de la succession des événements. Quelqu'un né en 1922 dans la vallée de l'Hérault a connu plus d'inventions et de modifications dans sa vie quotidienne que n'importe quelle autre génération. Centenaire, il regardera un autre usage d'outils comme s'il était un extraterrestre. En 2013, il y a même un internaute anonyme qui écrivait que le plus déstabilisant pour un être humain des années 1950, s'il devait réapparaître aujourd'hui, serait de voir des foules entières avec une machine dans leur poche, grâce à laquelle j'ai accès à toute la connaissance humaine et que j'utilise pour regarder des vidéos de chats et me disputer avec des gens que je ne connais pas. Cette vitesse dans l'innovation va de pair avec la vitesse des instruments. Plus personne ne peut rivaliser avec, par exemple, la spéculation financière organisée par des superordinateurs, à tel point que lors de la crise subprime de 2008, certaines banques découvraient qu'elles avaient des actifs toxiques dont elles ignoraient jusqu'à leur existence et furent au bord de la faillite du jour au lendemain. Cette incontrôlable vitesse a des conséquences complexifiées par le rôle des médias. Pour comprendre cette donnée supplémentaire, plongeons-nous dans une histoire célèbre. Le 6 mai 1937, le dirigeable Édimbourg s'enflammait au-dessus de Lakehurst, juste à côté de New York. 35 morts. Une cause sans doute accidentelle liée à la dangerosité du moyen de transport. Mais un retentissement international disproportionné en fit une affaire symbolique que nous connaissons tous, même si l'histoire des aérostats ne nous intéresse pas du tout. Pourquoi ? Car non seulement il y avait dans le New Jersey une foule impressionnante pour en témoigner, mais il y eut aussi des photos restées célèbres du dirigeable en flammes et un jeune journaliste de talent commenta en direct cette catastrophe aérienne qui marqua les esprits. Paul Virilio écrit « Sans la radiophonie et le cinéma des actualités de Fox Movistone, cet accident majeur n'aurait pas eu le retentissement mythique qu'on lui a prêté et n'avait rien à voir par exemple avec les 1500 victimes du Titanic 25 ans plus tôt. Les masses médias en plein développement firent du bruit qui se diffusa à toute vitesse et organisa différemment l'ordre du monde. Désormais les USA et l'Allemagne nazie le comprirent très vite. C'est la vitesse à laquelle l'information se diffuse et la rend obsessionnelle qui en fait sa qualité. Un événement est important car on en parle rapidement. D'où une certaine hiérarchie des accidents. Un seul exemple. Le 14 novembre 2015, un TGV dérailla dans le Grand Est et fit plusieurs morts. On découvrit des irrégularités, mais cet accident ne resta pas dans la mémoire collective, car il intervint le lendemain des attentats de Paris. Les informations furent donc diffusées plus lentement, puis oubliées. Malgré la dimension spectaculaire des photos du TGV dans l'eau, personne ne les a à l'esprit. Cet accident ne marquera pas l'histoire du transport ferroviaire.
11 novembre 2015. La rame 744 du TGV Est est lancée à très grande vitesse, plus de 350 km/h. Dans la motrice avant, 6 employés de la SNCF et de Sistra, malgré cet écriteau qui spécifie un nombre maximal de 4 personnes admises. Parmi eux, l'auteur des images, qui décédera 3 jours plus tard. À bord ce jour-là, l'ambiance est plutôt décontractée, même si l'équipe de conduite semble préoccupée.
Il y a 27 km/h à perdre là, on les perdra pas en 700 mètres.
L'équipe doit éprouver la voie en roulant en survitesse. Elle doit aussi réussir à réaliser une série de freinages pour aborder un passage délicat, le pont d'Aigues-Versailles. Problème, personne dans la cabine ne semble vraiment savoir où doit débuter ce freinage.
Et pour être à 3 mètres, il faut freiner avant le pont 198.
Oui, c'est ça, d'accord.
On n'a pas le choix. Il y a un peu au quotidien.
C'est en ce sens que l'accident joue un rôle fondamental dans l'histoire des innovations. Il ne s'agit bien entendu pas de faire le contresens de Voltaire et de vouloir revenir à une époque sans technologie. En large partie, parce qu'on peut considérer que l'humanité a toujours innové depuis l'invention de l'agriculture et de l'élevage. Mais il faut prendre l'accident au sérieux, y compris dans l'hypothèse d'un accident ultime qui entraînerait la disparition partielle ou totale de l'humanité. Paul Virilio expliquait, dans un entretien avec le dessinateur Enki Bilal, qu'il fallait gérer la tragédie de cette situation globalisée, ce qui implique que l'accident se pense désormais non plus de manière locale, mais mondiale. Fukushima, en 2011, fut un accident mondial, tout comme la crise américaine des subprimes et le coronavirus. Si le mot « accident » vient du latin « accidens », qui veut dire « ce qui surgit inopinément », ça ne signifie pas que l'accident n'a aucun sens, aucune importance, comme une sortie de route qui ne doit pas remettre en cause l'invention d'un nouvel outil. L'accident, de manière profonde, dit quelque chose de l'époque. Il explique qu'il y a toujours une dualité entre les modes de production, de richesse, de confort, de solutions aux problèmes ancestraux de l'humanité tels que la recherche de nourriture, d'une part, et le mode de destruction, c'est-à-dire la capacité que les êtres humains ont à perdre ce qu'ils ont gagné à travers des processus absurdes. L'époque contemporaine est celle de la vitesse et de la possibilité de l'accident absolu. Cela nous change effectivement des Grecs de l'Antiquité qui vivaient sous la peur des dieux. Nous devons vivre avec la peur de l'hiver nucléaire ou de l'enchaînement de crises politiques et financières incontrôlables. Mais l'optimiste, soulignait Churchill, c'est quelqu'un qui voit une chance derrière chaque calamité. Soyons des optimistes lucides.
Je sais pas comment sauver le monde, mais si je savais, je suis pas sûr que je le ferais. J'ai pas grand chose à t'offrir, à part te dire qui je suis et ce que c'est. Je crois jamais ce qu'on me dit en premier, les mensonges circulent plus vite que le vrai. J'ai couru après le bonheur, sans prendre le temps de savoir ce que c'est. J'essaie d'avoir un enfant, j'essaie d'avoir autre chose que des regrets. Quand tu verras 2022, je comprendrai qui se met à pleurer. Ils disent que tout va s'effondrer, qu'on va y passer dans 3 degrés. Je pensais que la science allait nous sauver, mais j'ai de moins en moins confiance au progrès. Je sais même pas pourquoi je pense à ça, j'y connais rien, qu'est-ce que j'y connais. Que de la data pour les GAFA, bâtard, t'es rien d'autre qu'une donnée. J'ai quelques éclairs de génie, mais la plupart du temps je suis teubé. Je connais que les mauvais alcools qui donnent l'alcool mauvais. J'avais peur d'avoir rien compris, maintenant j'ai peur qu'il y ait rien à comprendre. Piégé dans notre propre système, prisonnier dans une sauvegarde bloquante. Je viens de là où les darons ressemblent à Cole, je viens de la campagne normande. Ils aiment juste les bonnes affaires, tout ce qu'ils veulent c'est voir l'émission de la brocante. Maman m'a dit s'il y a des pauvres c'est qu'ils ont mal travaillé à l'école. C'est pas de sa faute sa mère raconter le même genre de merde à ses gosses. C'est pas de sa faute sa mère, bref faut qu'on brise ce putain de cercle. Il est vicieux ce putain de cercle, je peux pas le faire tout seul, faut que tu m'aides. Aide-moi.
Je remercie RPH Sud et Radio Pays des Raux d'avoir permis la réalisation de cette chronique, tout particulièrement Solène pour la prise de son et la technique, ainsi que Samuel pour le montage. Vous pouvez retrouver ces chroniques publiées aux éditions BOD sous le titre « Chronique par Mont et par vous ». Et je laisse ce dernier mot à Jacques Higelin.